Bonjour, je suis Marine Rowe, la productrice du podcast Vieille Branche. Tout au long de l'année, vous avez pu entendre des entretiens riches, passionnants, émouvants avec des personnalités âgées de plus de 75 ans, issues du monde de la politique, des idées, de la culture ou des arts. Au micro de la journaliste Aude Loriot, ils vous ont parlé de leur vie, des temps actuels et passés, de ce qui avait évolué et de ce qui restait inchangé. Cet été, on a décidé de mettre dans vos oreilles certains des meilleurs passages de l'émission. Aujourd'hui, nos vieilles branches vous parlent d'un sujet souvent évoqué dans l'émission, la guerre d'Algérie et le passé colonial de la France. Vous allez pouvoir écouter ou réécouter les voix de l'avocate et féministe Danielle Merian, de la professeure de français et ex-meneuse de revue Bambi, du philosophe Alain Badiou, du recteur de la mosquée de Paris Dalil Boubaker et du linguiste Alain Rey. Bonne écoute.
Vieille branche chez moi. Une vieille branche. Je suis dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, je suis Aude Loriot et deux fois par mois, je rends visite à une vieille branche.
Je peux en dire plus long.
Découvrir
de tout de la vie.
Évidemment que c'est important.
Je vous fais rencontrer des femmes et des hommes qui ont traversé les époques. Qu'ont-ils à nous apprendre? Comment voient-ils l'avenir? C'était mieux avant? Qu'est-ce que c'était que cette guerre d'Algérie?
Alors la guerre d'Algérie, je la connaissais de longue date parce qu'elle a éclaté en 1954. J'étais au collège Sévigné et j'avais dans ma classe la fille du colonel Lacheroy qui avait fui en Espagne.
Qui était
un colonel d'extrême droite pour l'Algérie française. Bon. Et elle nous racontait que régulièrement, son frère était incarcéré à la place du père. Ensuite libéré, c'était l'internement administratif, une des horreurs de la République, si on peut dire République. Et donc la guerre d'Algérie, je l'ai vécue à travers la souffrance de cette famille. J'étais absolument pas du même bord politique, mais j'étais absolument outré de l'internement administratif d'un mineur au motif qu'on ne peut pas mettre la main sur son père. Donc mes indignations, elles sont anciennes, elles sont nombreuses, et j'ai beaucoup à dire. Et donc, nous étions parfaitement au courant de la torture en Algérie, puisque si on veut être informé, c'est extrêmement facile. Nous avions lu, parce qu'il a été en vente tout de même une demi-journée, le livre de La question d'Henri Allègre. Et donc, nous n'ignorions rien de la torture. Mon fiancé était anti-militariste, donc l'armée ne l'a absolument pas loupé. Lui, déjà, il déchirait tout ce qui venait de l'armée. À ce titre, l'armée, sachant qu'il était né au Fawet en Bretagne, dans le Morbihan, l'a appelé à Nantes. J'étais furax, parce que c'est bien de déchirer, mais il y a des limites. Il aurait pu faire savoir, puisque de toute façon, il n'y couperait pas, qu'il était parisien. Je dis il n'y couperait pas parce qu'il aurait pu être objecteur de conscience, mais ça faisait tellement d'années de prison à l'époque que nous n'avions absolument pas envie de vivre ça. En plus, nous savions que pour nos familles, ça aurait été de la lâcheté, parce que j'entends encore dire que l'objection de conscience pourrait être de la lâcheté, alors que c'est de la non-violence active.
Donc, c'était combien, 8 ans de prison?
9 ans.
9 ans de prison. Voilà.
Seulement. Alors, bon, bref... Il est appelé à Nantes. À Nantes, le premier jour, il demande à l'adjudant de bien vouloir être poli avec la troupe et se retrouve dans les 5 minutes sans ceinture et sans lacets. Et il a passé 2 mois de prison, 2 mois de corvée de chiottes. Ensuite, de quoi il a été enlevé dès que c'était 2 mois de classe et de vaccin. Aussitôt qu'elle l'a pu, l'armée l'a envoyé en Algérie et pour lui apprendre à vivre, l'a envoyé au deuxième bureau.
Alors le deuxième bureau, racontez-nous.
Alors au deuxième bureau, à Thiarette, dans l'Oranie, mon mari, de 1958 à 1961, a passé ses nuits à aller dans les Mechtas arrêter la population masculine. Il avait indiqué à son colonel en arrivant qu'on ferait mieux de l'envoyer apprendre à lire aux enfants dans les villages. On lui avait répondu, Merian, la ferme, vous obéissez, vous vous taisez. Et donc, il avait également dit qu'il ne donnerait jamais et en aucun cas une gifle à qui que ce soit. Donc, il interrogeait normalement ses hommes. Il m'a dit « Je n'oublierai jamais le regard des femmes » lorsqu'il les emmenait. Il les interrogeait normalement. Ces pauvres paysans pris entre deux armées, évidemment, n'avaient rien à dire. Et au petit matin, il les mettait sur un camion prochaine DOP, département opérationnel de protection, c'est-à-dire en français, centre de torture. Donc il a vécu ça de 58 à 61. Je pense que je l'ai aidé à ne pas devenir fou, puisqu'il n'est pas devenu fou. Je lui ai écrit tous les jours, il y a un autre monde, un jour, nous serons heureux. C'était surréaliste, il était dans la torture jusqu'au cou, et moi je faisais des études de droit. C'était complètement surréaliste. Et comme à l'époque, j'espère que c'est terminé, on lisait nos courriers, on ne parlait pas de la torture.
Terrible. Alors justement, dans votre livre, vous écrivez que nous vivons encore les conséquences de la guerre d'Algérie et vous ne développez pas, et cette phrase m'a interpellée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je pense que toute l'histoire de l'Algérie est la conséquence de l'occupation française en Algérie. Quand nous avons quitté l'Algérie, on laissait un réseau ferré. Aucun Algérien n'avait le droit de conduire une locomotive. Bon, ouais. Donc, du jour au lendemain, et à cause de l'OAS, tous les Français ont dû partir. C'est un désastre absolument total. Ils se sont payés, hélas, une guerre civile sans fin. Enfin, sans fin, si, elle est terminée. Ils ont un pauvre vieux dont ils ont le projet de réélire encore, alors qu'il est à peine vivant, président. Enfin, bon, c'est tout sauf une démocratie, et je pense que nous en sommes responsables, même s'il y a plus de 50 ans que l'Algérie est indépendante.
D'accord. Mais et sur la société française, vous pensez que ça a des conséquences aussi ?
Ben oui, on voit encore des gens... amoureux de Maurras, qu'on republie, ou des pamphlets de Céline contre les Juifs. L'extrême droite se porte admirablement bien. Elle gagne les élections dans toute l'Europe. Nous sommes dans une situation parfaitement catastrophique. Donc j'espère que ça va se redresser.
Les forces de sécurité, il y a un racisme qui vient de la colonisation. Je crois, ou alors très indirectement, je crois plutôt qu'il n'y avait pas ce racisme-là, même pendant la guerre d'Algérie, de la police, parce que la police a commencé... je vous signale quand même que la police était descendue comme des lapins en plein Paris, à l'époque, qu'on avait été obligé de faire des casemates en dur pour protéger les policiers qui gardaient les commissariats. Donc, ça, c'était la guerre d'Algérie. Mais après la guerre d'Algérie, quand les Algériens sont venus en nombre pour travailler par bateau entier pour travailler en France, parce qu'il y avait des problèmes, d'énormes problèmes en Algérie, il n'y a pas eu ce racisme-là. Ils n'ont pas été très bien reçus, on pensait qu'ils venaient travailler, je pense, et on ne s'occupait pas de leur habitat. C'était l'époque qui le voulait, puis la France avait derrière elle 25 années de guerre, d'abord de la guerre contre l'Allemagne, et puis de la guerre d'Indochine, et puis la guerre d'Algérie. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup de guerres. Elle était extrêmement appauvrie. Il y avait eu des grèves insurrectionnelles en France, avec des voies ferrées qui étaient détruites pour bloquer les circulations. Donc la population était beaucoup plus pauvre. On n'a pas idée aujourd'hui de ce que c'était. Et donc, il y a eu ensuite tous ces habitats qu'on a créés à la hâte pour mettre tous ces malheureux qui vivaient dans des habitats extrêmement pauvres. On a créé des HLM, des appartements en grande quantité. Et plus tard, on a créé le regroupement familial. Il n'y avait pas de problème entre la police et ces gens-là à l'époque. Pas de problème majeur comme on a trouvé ailleurs. C'est après, ce sont les générations nouvelles, c'est-à-dire les enfants des gens qui sont venus ici, qui sont nés français et qui s'en sont pris. Vous savez, ça va de mal en pis, cette histoire. Mais moi-même, j'ai travaillé à Garges-lès-Gonesse. J'ai connu des Garges-lès-Gonesse assez calmes. C'est vrai que des élèves me disaient « Madame, vous savez, c'est terrible, hein, si on n'est pas connu dans mon quartier, on ne peut pas passer. » Bon, je ne me rendais pas trop compte, mais tout ça s'est aggravé. Et les problèmes, ce sont les enfants qui sont français et qui ne peuvent pas, qui ne savent pas, n'ont pas du tout envie de retourner vivre dans le pays d'origine, ça certainement pas, mais qui se sentent quand même pas tout à fait intégrés et qui ont d'autant plus de mal à s'intégrer que l'école marche très mal. L'école ne fait pas son travail. Je ne dis pas que mes collègues, nous n'avons pas fait notre travail, nous avons fait de notre mieux. Mais l'atmosphère des enfants dans les banlieues, c'est à ne pas travailler, pas tout le monde, mais tous ceux qui en auraient besoin pour essayer, vous savez, l'ascenseur social et toutes ces choses, et tous ceux qui en auraient le plus besoin pour essayer de s'accrocher aux branches et de s'intégrer, après tout, je pense que ça les décourage, que c'est trop difficile, que voilà, il y a la mayonnaise ne prend pas vraiment et il y a beaucoup de gens qui s'en détournent. Alors comment ça va finir? Il est clair que c'est inquiétant. Vous savez, l'Algérie elle-même a ce genre de problème. Il n'y a pas la démocratie en Algérie comme il y a en France. Je crois même qu'elle serait impossible dans la mesure où l'islamisme est quand même implanté en Algérie. Je ne crois pas que la guerre d'Algérie habite encore les esprits de cette façon-là. Si, des gens de mon âge peut-être.
Écoutez, je crois que le virus de la politique, pour moi, a une origine extrêmement précise et existentielle, si je puis dire, c'est la guerre d'Algérie. C'est-à-dire la guerre d'Algérie, la guerre coloniale, enfin, de façon plus générale, les guerres coloniales, mais très singulièrement la guerre d'Algérie, a créé chez moi une telle répulsion, une telle horreur sur ce qui se passait. Il faut tout de même se souvenir, parce qu'évidemment, les choses sont oubliées. Nous étions dans un régime démocratique, le gouvernement était socialiste, mais on torturait dans tous les commissariats parisiens, vous comprenez? Il faut quand même se représenter ce que c'était pour un jeune homme qui arrivait là et qui savait qu'il allait être convoqué au service militaire dans des conditions qui étaient des conditions du massacre, du pillage, du déportation des populations, etc., etc. Donc d'une guerre horrible. Et je me suis senti contraint d'intervenir, contraint de me séparer de cette horreur. Et alors, ça m'a embarqué dans la politique pour toujours. Parce que, mais le point de départ, ça a été ça, vraiment.
Sur le moment, je ne me rendais pas tellement compte. Puis j'étais protégé par mon milieu familial ou mon niveau. Mais petit à petit, je voyais qu'il y avait quand même l'injustice qui régnait. Il y avait la souffrance, il y avait l'injustice, oui. Et il y avait un conflit qui se créait.
Et ce conflit subsiste, à votre avis, aujourd'hui, d'une autre manière?
Ce conflit me paraissait pouvoir être possible à ne pas aboutir à une rupture, vraiment. Je pensais que et les Français et les nationalistes algériens finiraient par trouver un juste milieu dans les rapports entre Français et musulmans. Il n'était pas aussi noir qu'on veut bien le dire. Il n'était pas non plus la panacée ni des uns ni des autres. J'avais de nombreux petits camarades au lycée, juifs ou italiens ou espagnols, mais surtout juifs. Et je n'avais pas l'impression que mes petits camarades juifs avaient tant de moyens qu'on le dit, que c'était un petit peu les petits juifs de Babel Oued ou de certaines zones où ils vivaient, mais ils avaient des difficultés. Il y avait peut-être des gens que je ne connaissais pas et qui avaient des richesses probablement ignorées, mais dans mon milieu, nous vivions, nous n'étions pas à couteau tiré les uns avec les autres.
Quels souvenirs vous gardez de cette période algérienne ?
C'était plus algérien pour moi, c'était marocain, donc toujours maghrébin, mais j'ai eu des relations différentes avec les trois pays du Maghreb que je connais très bien et que j'aime énormément, même dans leurs difficultés actuelles. La Tunisie, je l'ai connue plus jeune que l'époque dont vous parlez, comme soldat,
parce que j'avais refusé
de continuer à avoir un sursis d'étudiant. Je trouvais que c'était immoral et je ne savais pas trop dans quelle direction me tourner. Donc j'ai été par hasard mobilisé dans les tirailleurs tunisiens. Et ça, c'est une très forte expérience parce que avant ça, j'avais aucune conscience politique. Et quand je me suis retrouvé avec une chéchia sur la tête et l'objet du mépris absolument visible des Français de Tunisie, je me suis dit, merde, il y a quelque chose qui se passe mal et il faut changer tout ça. Et je suis tombé, figurez-vous, dans Sartre, avec la revue Les Temps Modernes, avec le premier observateur qui était aussi de cette même tendance. Et sans trop le vouloir, et pour des raisons humanistes, tout simplement, parce que j'avais des amis maghrébins, musulmans, des juifs. La Tunisie, c'est une société qui, à l'époque, était très, très tripartite. Il y avait des gens qui parlaient français, il y avait des gens qui parlaient un peu, ou plus ou moins bien l'hébreu, mais à cause de la synagogue, ils avaient une expérience de l'hébreu. Il y avait des gens, naturellement, qui parlaient arabe et il y avait des gens qui parlaient berbère. Ça faisait un ensemble. Et cet ensemble était vivant et avec des difficultés, des frictions, etc. Et puis, au-dessus de tout ça, cette espèce de folie collective qu'est l'armée. Bon, qui est en même temps une formation qui n'est pas totalement négative. J'ai appris beaucoup de choses. Au point de vue, disons, de prendre sur soi-même, de s'ouvrir aux autres. Toute cette période a été pour moi une leçon constante.
Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Aude Loriot, réalisée par Aurore Meilleur-Mailleux, mixée par Laurie Galligani, coordonnée par Marine Roux. Retrouvez Vieille Branche sur Twitter, _vieillebranche, pour Instagram, vieillebrancheNE. Et sur Facebook, Vieille Branche Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Et pendant tout l'été, retrouvez tous les 15 jours un best-of de nos invités de la saison 1. Prochain épisode, Emmanuel Macron.